Seigneur, merci pour tout ce qu'on a déjà entendu ce matin, les textes que nous avons lus, le privilège de pouvoir prendre la Sainte Cène, Seigneur. Tout cela nous rappelle ta présence, nous l'avons lu dans Pierre, Seigneur. Tu es cette pierre vivante, tu es le centre de notre vie. Nous ne serions pas là ce matin sinon, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, combien souvent j'oublie ce que tu me dis. Combien souvent, le soir arrivé, je ne me rappelle plus de ma lecture du matin. Merci pour ta patience, merci pour ton rappel incessant, Seigneur. Merci de bénir ta parole. Et merci parce qu'elle est la vérité. Elle est le fondement de notre vie, Seigneur. Quel privilège de te connaître. Amen. Alors, je dis avant, hein, parfois, arrivé le soir, j'oublie ce que j'ai lu le matin. Ou arrivé le dimanche soir, j'oublie déjà ce qui a été dit le matin. Alors, d'un côté, c'est parce que je suis un peu sourd. J'entends pas tout. Ou je fais un tri. Et d'un autre côté, c'est peut-être l'âge aussi, la vieillesse qui commence à pointer du nez. Hein, Gilles? Je sais pas. Bon, ça ne concerne peut-être pas Gilles. Voilà. Alors, je vous propose de voir ce matin juste 5 versets. Pas beaucoup. 5 versets, c'est une histoire que vous connaissez. Et c'est une histoire qui est marquée que dans l'évangile de Luc. C'est drôle parce que souvent les histoires qui reviennent dans Marc, dans Luc, dans Jean, dans Matthieu, reviennent souvent hein, dans plusieurs des évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Hein. Vous savez ce que c'est. Hein. Ça veut dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est des histoires qui reviennent. Et souvent quand on lit une histoire avec une autre, on voit qu'il y a... ça se développe un peu plus. Mais là, Luc parle, il y a une histoire qui revient que dans l'évangile de Luc. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Luc 10. Luc chapitre 10, les derniers versets. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait les lire dans la Louis II 21? Quelqu'un qui a une bonne voix pour qu'on entende aussi. Sinon, mais on va le lire une deuxième fois. Est-ce que quelqu'un veut lire une première fois dans la Seconde 21? Les versets 38 à 42, dans la seconde 21. Je sais que vous n'avez pas tous la même version, c'est pour ça que je précise. 5 versets, les versets 38 à 41. Quelqu'un veut lire?
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme au nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Merci Christophe. Alors comme dit, hein, c'est pas un long récit, pas de long discours, c'est juste 5 petits versets. Mais c'est la première fois ici que Luc, dans ses récits, mentionne Marthe et Marie. Et juste pour préciser, Marie ici n'est pas la mère de Jésus, hein. Mais ni Marie de Magdala, parce que dans les évangiles, on fait parfois référence à plusieurs Marie. Hein. Marthe et Marie sont quoi? Ce sont deux sœurs. Et ils avaient un frère qui s'appelait Lazare. Comment on sait? Je vous propose de lire, peut-être, Christophe continue, Jean 11, tu as une voix qui porte. Si tu veux lire Jean 11, les versets 1 et 2.
Jean 11?
Oui. Jean 11, les versets 1 et 2.
Il y avait un homme malade, c'était Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade.
Voilà. Jean nous révèle que Marthe et Marie habitaient à Béthanie et ils avaient un frère, Lazare, que Luc ne disait pas, mais Jean le précise ici. Et nous verrons par la suite, quand on lit Jean 11, mais on ne va pas le lire ce matin, que Jésus ira une deuxième fois à Béthanie pour ressusciter Lazare. Il ira une troisième fois à Béthanie, juste avant Pâques. Et quand, avant de partir au ciel, on peut lire dans Luc 24, il est aussi à Béthanie quand il bénit ses disciples avant de monter au ciel. Ça veut dire, Béthanie, c'était un endroit où Jésus revenait souvent. C'était un endroit familier et Marthe et Marie étaient proches de Jésus et Lazare aussi. Et il avait la liberté d'y venir. Mais je voudrais revenir à cette première rencontre dans Luc 10. On va relire le texte. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée à de nombreuses tâches de service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc, toi, de venir m'aider. » Jésus répondit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Est-ce que Jésus était attendu par Marthe, par Marie? Les 12 disciples étaient-ils attendus par Marthe et Marie? Et si on compte tous ceux qui étaient présents, vous arrivez à combien de personnes? Allez-y. 12 disciples, Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Ça veut dire qu'il y avait 16 personnes. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout à coup, 14 personnes en plus sont venues chez Marthe et Marie, qui n'étaient pas attendues. On peut comprendre que Marie a commencé à s'affairer. Marthe, merci Gilles, Marthe était affairée, verset 40. Elle était affairée à de nombreuses tâches. Qui ne peut pas comprendre Marthe? Il y avait de quoi courir à gauche, à droite, si tout à coup, ça sonne chez vous à la porte et vous avez une dizaine, quinzaine de personnes qui viennent et qui n'étaient pas attendues, imprévues. En plus, si on se met dans la coutume de l'époque de Jésus, on n'accueillait pas seulement les hôtes pour le repas, mais en même temps, s'ils voulaient rester la nuit, ils pouvaient rester la nuit. Ça veut dire qu'il ne fallait pas seulement préparer un repas, mais il fallait aussi préparer les chambres pour autant de personnes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en général avant de manger à l'époque de Jésus?
Se laver les pieds.
Se laver les pieds. Ça aussi, ça veut dire qu'on accueillait quelqu'un, on lui lavait les pieds. Rappelez-vous Jésus qui a fait ça dans Jean 13, et c'était aussi une coutume. Alors vous vous rendez compte? Les tâches qu'attendait Marie. C'est bien, Gilles.
Et Marie aussi.
Oui, Marie aussi. Mais on va y revenir, on va y revenir.
C'est pour voir son
qui de nous n'aurait pas réagi? Quelle mère de famille n'aurait pas réagi comme Marthe? Et rappelons-nous, à l'époque, pas de frigo. Pas de téléphone pour 8... téléphoner à McDo pour qu'on soit livré. Ou vite aller inviter les gens au flunch. Impossible. Impossible. Peut-être que Marthe, qui était à la cuisine, hein, c'était une pièce à part, de temps en temps sortait de la cuisine pour écouter ce que Jésus disait. Mais elle était tellement accaparée par la tâche qu'elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps de rester au pied de Jésus pour l'écouter. Et peut-être était-elle en train de ruminer dans sa tête, dans ses pensées, et dire « Pourquoi ma sœur ne vient-elle pas m'aider ?» Elle sait donc qu'il y a plein de travail, plein de choses à préparer pour autant de personnes. Elle s'est peut-être même dit, mais Marie, tu es paresseuse aujourd'hui. Tu ne viens pas m'aider. Ça fait une heure que tu es assis au pied de Jésus. Maintenant, ça suffit. On peut sentir la colère monter chez Marthe. Je vais m'adresser au Seigneur. Verset 40, hein. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc, toi, de m'aider, de venir m'aider. Marthe était sûrement en colère envers sa sœur, hein, on peut l'imaginer. Mais il y avait peut-être aussi autre chose chez Marthe. Peut-être il y avait chez elle un manque de reconnaissance. Elle dit à un moment donné, « Cela ne te fait rien, Seigneur. Cela ne te fait rien que je me retrouve seul. » Peut-être qu'elle se sentait moins appréciée que sa sœur Marie, moins considérée, moins aimée par le Seigneur que Marie. Pourtant, on peut lire dans Jean 11, 5. Tu veux lire, Christophe, Jean 11, 5? Jean 11, 5.
Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare.
Voilà. Ce texte nous dit clairement que Jésus ne fait pas de différence. Il aimait Marthe, Marie et Lazare. La Bible du Semeur traduit ce verset. Jésus était très attaché à Marthe, à Marie. J'espère que personne de nous ce matin ne doute de l'amour de Dieu pour sa vie. Jésus-Christ t'aime. Et ça y est, on a ce verset qui dit « Tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime. » Dieu nous a choisis par amour, pas parce que nous étions meilleurs que tous ceux qui nous entourent au loin, qui ne connaissent pas encore Christ. Peut-être Marie doutait de l'amour de Jésus pour sa vie. Et c'est pour ça que brusquement, elle vient dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas que ma sœur me laisse faire le travail tout seul. Dis-lui donc de m'aider. » Parole vivante traduit ce verset par « brusquement ». Ça veut dire au fond d'elle, ça bouillonnait. Et Jésus, de suite, reprend Marthe et lui fait des reproches. C'est ça qui est marqué? Christophe?
Non.
Toi, tu as lu le texte? C'est pas ça qui est marqué, hein?
Non, non.
Vous suivez, c'est bien. Qu'est-ce qui est marqué dans le verset 41? Jésus répondit, Marthe, aucun reproche envers Marthe. Je crois que Jésus, au contraire, était reconnaissant envers Marthe pour son esprit de service. le fait que Marthe avait à cœur d'accueillir tout le monde. Et à l'époque de Jésus, c'était un signe de respect. Un signe d'honneur. Et on voit chez Marthe qu'elle avait cette attitude, cet esprit de service qui était peut-être plus présent chez elle que chez Marie. Regardez le verset 38 qu'on a lu. C'est qui accueille Jésus? C'est bien Marthe qui accueille Jésus. Et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Et dans Jean 12, on peut lire que Marthe était celle qui servait de nouveau à table, qui servait Jésus. Pourtant, Jésus dira à Marthe, verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » La parole vivante traduit « Tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses. » Je pense que le problème de Marthe, c'était qu'elle voulait trop bien faire. Verset 40, on peut lire que Marthe s'affairait. Marthe se laissait absorber, traduit la parole vivante. Elle se laissait absorber par la tâche. Absorber veut dire se laisser pénétrer comme une éponge qui absorbe. Alors une éponge est faite pour absorber, hein. Mais nous ne sommes pas faits pour absorber. Parfois, nous devons absorber, mais nous devons aussi pouvoir nous exprimer de nouveau, nous décharger sur le Seigneur. Et Jésus qui dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Alors, je ne sais pas, ce matin, si cette semaine vous étiez agité, si vous étiez en train de courir à gauche et à droite, sûrement, hein, il y a des jours, on court à gauche et à droite. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a tellement absorbé cette semaine, submergé, au point de venir ce matin et d'être entièrement inquiet? Ou peut-être même d'être frustré, au point d'en vouloir au Seigneur, peut-être. Vous vous rappelez du mot d'ordre que Gilles nous a laissé début d'année? Je ne sais pas si lui-même se rappelle, on verra, Gilles. Tu te rappelles, Gilles? Peut-être quelqu'un se rappelle. Axel, tu te rappelles?
Je me souviens, il a dit un moment dans la Bible d'année, quoi qu'il arrive, Jésus est là, ou un truc comme ça.
Il a sûrement dit ça aussi, mais ce n'est pas le mot d'ordre. Gilles, tu te rappelles? Ah, bon, c'est la vieillesse, Gilles. Voilà. Soyez Philippiens 4. Réjouissez-vous, on va le lire, Philippiens 4, je vous propose de lire Philippiens 4. Quelqu'un disait que Philippiens est l'épître de la joie, pas seulement, hein. C'est aussi l'épître où Paul marque l'accent sur l'importance de l'unité dans l'Église. Philippiens 4, c'est ce verset que tu nous as laissé, Gilles, tu vois, je me suis rappelé, Gilles, tu vois. Réjouissez, j'aime beaucoup ce verset, et la suite. On va lire la suite aussi. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous toujours, tous les jours, on pourrait traduire, tous les jours. Que votre douceur, ça c'est pour moi aussi, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Et la suite, c'est marqué, Christophe?
Je l'ai pas, Philippe, en
fait. Ah, ça va pas?
Non, ça va pas.
Vas-y, lis-le.
Mais je l'ai pas, je cherche.
Ah oui, on t'attend, c'est pas un souci. Non, non, mais tu es déjà pardonné, mon frère, il n'y a pas de souci.
Oui, mais mon cœur, il y a le cœur quand même. 4-6.
Je t'embête, hein. Mais attends, qui connaît le verset par cœur?
Tu m'as dit
4, 6. Qui connaît le verset? Ne vous inquiétez de rien, mais... Non, non, sans lire, sans lire. Mais comme ça, tu suis pour voir si c'est juste. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faite à Dieu, la suite, par... Et soyez reconnaissants. Quand j'ai relu ce verset hier, je me suis rappelé la reconnaissance. Tu en as parlé ce matin, Karagan, l'importance de la reconnaissance. Apprenez ce verset par cœur, vous le savez. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et rappelez-vous les béatitudes. Il y a combien de chapitres de béatitudes dans Matthieu ? Chapitre. Aurélien, il y en a combien ? Hein ? Il y en a combien ? Non, je pose les calls ce matin, il y en a 4, hein. Il y a 5, 6, 7 et 8. Je ne sais pas si Calgan est d'accord avec moi, mais pour moi, il y en a 4. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit 3, voilà, aussi 3, ok. Alors, il y a 5, 6, 7. Alors, c'est excellent, parce que je veux parler du chapitre 6, qui est en plein milieu des béatitudes. Et qu'est-ce qu'il est dit? Ne vous inquiétez pas. Mélanie, qu'est-ce qu'il dit?
Ne vous inquiétez de rien.
Ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6, 25 et 34. Et ça revient à 5 reprises. Ne vous inquiétez de rien. Et qu'est-ce qui est marqué à la fin? Matthieu 6, 32. Parce que je sais. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait, il connaît tes besoins. Le Seigneur sait. Ne vous inquiétez de rien. Et pourtant, Marc s'inquiétait pour beaucoup de choses, lui dit Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, primordiale, avant toutes les autres choses. Et il dit, ta sœur Marie a choisi la bonne part. Écoutez son maître, m'écoutez, moi le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, écoutez le Seigneur? Écoutez la parole de Dieu. J'ai lu cette semaine que ces versets peuvent parfois prêter, on peut les interpréter différemment. Dans l'histoire de l'Église, très tôt, un des pères de l'Église, hein, vous savez ce que c'est les pères de l'Église, hein, il y avait d'abord les apôtres, après il y a eu les pères de l'Église, hein, et après il y a eu les premiers papes à partir du 5e siècle, malheureusement. Très tôt dans l'histoire de l'Église, des personnes ont compris à travers ce texte de Luc 10 comme un appel à privilégier l'intellect au détriment du travail manuel. Est-ce que Jésus mettait l'accent plus sur l'intellect que le manuel? Quel était le métier de Jésus? Il était charpentier. C'était un manuel en même temps. Quel était le métier de Paul? Faiseur de tente, pareil. Jésus n'est pas dans ce texte en train de dire que le travail manuel est moins important, que les tâches ménagères sont moins importantes que l'écoute de la parole de Dieu. Un autre père de l'Église, Saint Augustin, hein, ça vous dit peut-être quelque chose, on est dans les années 350, il a écrit un traité sur la vie monastique. Traité que tu connais sûrement, Calagana. Non, pas tout à fait. Il a écrit un traité sur la vie monastique. Pourquoi ? Il était entouré de moines qui voulaient ne plus sortir de leur monastère. Pour eux, l'essentiel, c'était d'être restés dans leur chambre et méditer devant le Seigneur toute la journée. Contempler le Christ toute la journée. Et saint Augustin leur a rappelé qu'ils devaient aussi travailler pour gagner leur vie. Hein. Et c'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Tout à fait. Ça veut dire aussi que Jésus, à travers ce texte, n'est pas en train de dire à Marthe que le service qu'elle faisait n'était pas bien. Mais qu'à travers le service qu'elle faisait, elle oubliait l'essentiel. Elle oubliait de venir devant le Seigneur pour avoir la force de faire le service dans une attitude de reconnaissance. C'est pour ça que Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, c'est écouter Jésus parler, écouter la parole de Dieu. On pourrait dire qu'il y a trois composantes quand on parle de la parole de Dieu. Il y a une première composante, c'est écouter Christ lui-même. Rappelez-vous Jean 1:1, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 1:1, Christophe ? Au début était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était parmi nous. Et dans le verset 14, il dit que la parole s'est faite homme. Jésus est la parole incarnée, d'où l'importance de l'écouter. Et en même temps, quand on parle de la parole, on parle aussi de la bonne nouvelle de l'Évangile dans son ensemble. Et troisièmement, cette parole représente aussi toute l'Écriture. Paul dira à Timothée, toute la Bible est inspirée, toute l'Écriture est inspirée. La parole de Dieu, c'est le Christ, l'Évangile et l'Écriture tout entière. D'où l'importance d'écouter sa parole et de, pas seulement l'écouter, mais aussi de Amen. Tout à fait. Rappelez-vous ce que Jacques dit dans son épître. Jacques 1:21, il dit « Accueillez avec douceur cette parole, mettez en pratique la parole et ne contentez pas de l'écouter. » Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il dit « Celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu, celui-là seul sera heureux dans son activité. » Et quand vous lisez l'évangile de Luc, on voit que tout au long de l'évangile revient ce refrain « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui l'observe. » Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Colossiens 3:13, c'est un verset que nous citons parfois dans nos introductions pour le culte. Colossiens 3:13. Tu veux la lire, Christophe, le verset? Excuse-moi, mais c'est toi que je vois le mieux, c'est pour ça que...
Je vais déjà pardonner.
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
Merci Axel, mais c'est excellent hein, de se pardonner les uns les autres, tout à fait. Mais ce n'est pas le thème, ce n'est pas Colossiens, je pense. Colossiens 3:13.
C'est 13.
C'est 13. Ah, il a lu. Tu es pardonné, Axel. C'est moi. Je voulais dire 16. Lis le 16, Axel. Excuse-moi.
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Et
jusqu'à là. Alors, selon les versions, toi, tu as, Axel, abondamment, hein? Et Christophe, tu as quoi?
Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse.
Dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Ça montre qu'il ne faut pas simplement écouter la parole, mais qu'elle habite en nous. Cette parole qui nous transforme, qui nous rend semblables à l'image de Christ. Tu en as parlé ce matin, Callaghan. L'importance, hein? Steve McRae, je ne connais pas personnellement, mais il a écrit le livre « Victorieux par grâce ». Je crois qu'il y en a qui sont en train de le lire, si je ne me trompe pas. C'est édition MB. Il dit à un moment donné ceci, « Restez à l'écoute de Jésus jour après jour, c'est la seule responsabilité du chrétien. » Restez à l'écoute de Jésus jour après jour. C'est la seule responsabilité du chrétien. Et Esaïe dit à un moment donné, à la fin de son livre, dans Esaïe 50, il dit, Esaïe 50, versets 4 et 5, Christophe, je te mets à contribution aujourd'hui. Esaïe 50, 4 et 5, on peut lire ces versets que vous connaissez.
Esaïe 50,
tu me dis. Oui, 50, 4 et 5. Si c'est bien les bonnes références, moi je crois.
Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, lui, le matin, après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas rebellé, je n'ai pas reculer.
Matin après matin, le Seigneur m'ouvre l'oreille pour que j'écoute sa parole. Peut-être que nous ne sommes pas du matin. Tu connais des personnes qui ont du mal le matin de s'arrêter, d'ouvrir la Bible, de prendre du temps. Pas grave, faites-le le soir. Ou peut-être avons-nous du mal, tout simplement, à venir écouter le Seigneur. Alors faisons la prière, notre la prière d'Esaïe. Seigneur éternel, viens à mon secours. Aide-moi à m'arrêter. Aide-moi à entendre ta voix. Dans le verset 28, chapitre 28, si tu veux lire, Christophe.
Toujours dans Esaïe.
Oui, 28-23. Il y a l'Éternel qui parle au peuple d'Israël, qui s'était complètement rebellé, éloigné. Il dit à un moment donné,
prêtez l'oreille et écoutez-moi. Soyez attentifs et écoutez ma parole.
Prêtez l'oreille, écoutez-moi. Et au verset 29, Christophe, du même chapitre.
Cela aussi vient de l'Éternel, le maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement.
Dieu, dans sa grâce, si je viens dans sa présence, il distribue des merveilleux conseils. Il augmente la capacité de discernement. Il nous donne de saisir et de comprendre qui il est vraiment. D'où cette importance de s'arrêter au pied de Jésus. Le texte de Luc nous rappelle, nous dit pas, en tout cas Luc ne dit pas ce que Jésus a dit à Marie. Il parle surtout de Marthe. Mais je suis convaincu que Jésus a a pu rejoindre Marie dans ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et on voit par la suite, quand vous lisez l'évangile de Jean, on va lire, Christophe, merci, Jean 12, les versets 1 à 3.
6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre de parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum.
La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous sentez le parfum? Pour Marie, c'était un acte d'adoration, un acte de louange et de reconnaissance envers son maître, son Seigneur. Elle lui a donné ce qui lui était le plus cher. À travers cet acte, elle a prouvé son amour pour Jésus. Cet acte nous montre qu'elle avait le discernement spirituel et la sagesse concernant la personne de Jésus. Quand vous lisez dans le même chapitre, Jean parle des 12 disciples qui n'avaient pas ce discernement, mais Marie, elle l'avait. Marie avait compris que Jésus était le sauveur du monde, l'unique sauveur, l'unique Seigneur. Elle avait réalisé que Jésus était tout ce dont elle avait besoin. Elle avait peut-être compris ce que Jésus disait un peu dans Jean avant, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi a la vie éternelle. Je suis la source d'eau vive. » Ça veut dire qu'il faut pas seulement la nourriture physique, mais il faut aussi la nourriture spirituelle, cette relation avec Christ. Marie avait saisi au pied de Jésus qui était son maître. Et elle a grandi en discernement spirituel jusqu'à tout offrir à Christ, ce parfum d'une bonne odeur. Je vais vous lire une histoire pour conclure, une histoire vraie. C'était un pianiste polonais, il s'appelait Ignacy John Paderewski. Excusez de la prononciation, hein. Est-ce que quelqu'un, ça lui dit quelque chose, non? Ignacy John Paderewski, c'est un pianiste polonais. Lors de la Première Guerre mondiale, on lui a demandé de s'associer à l'effort de guerre en donnant des concerts pour collecter des fonds. Il a réfléchi et à un moment donné, il a accepté, mais a posé une condition. Ok, si vous me permettez de continuer à faire mes gammes 3 heures tous les jours. Ils étaient d'accord. Par la suite, on lui a demandé pourquoi cela avait tellement d'importance pour lui. Il a répondu, « Si je rate un jour de gamme, je me rends compte quand je suis en concert en train de jouer. Si je rate 2 jours de gamme, les critiques se rendent compte. Et si je rate mes gammes pendant 3 jours, le monde entier s'en rend compte. » Négligeons pas nos gammes, la musique de Dieu, sa parole. Jour après jour, soyons à son écoute. Que que cela devienne une priorité dans notre vie. Amen.